Je vous remercie de ce très intéressant et formidable exposé, en plus qui a fait écho à bien des thèmes de ce cours concernant à la fois un pays, une période que je n'ai pas étudiée, donc dont je n'ai pas parlé. Pour lancer la discussion, avant d'arriver au problème de fond de l'interprétation politique, je voudrais vous poser deux questions presque techniques. Vous citez dans votre livre une phrase qui me semble extrêmement juste, de Daniel Arras, qui parle de ces fresques italiennes. On peut penser à bien d'autres, mais celles-là, évidemment, qu'on commente aujourd'hui, sont particulières. Il parle de leur beauté étouffante. Et il est vrai, quand on arrive dans cette pièce, on ne sait plus où donner de la tête. Moi-même, je l'ai visité peut-être 5-6 fois, et on a beau avoir lu Skinner, vous avoir lu, etc., on est un petit peu étouffé. Et comment pensez-vous, vous avez parlé de la lisibilité et de la particularité qu'on met des mots sur les choses dans cette fresque. Et vous avez fait le parallèle entre la lisibilité qui était celle du code communal qui était écrit en gros caractères, rendu visible, accessible pour tout le monde, mais là, cette fresque pour... à moins d'avoir lu les 300 pages de votre livre, qui n'était pas encore publié à l'époque, l'interprétation est quand même quelque chose qui n'est absolument pas évident. Donc ma première question, c'est quelle était la lecture pratique, à votre avis, puisqu'on n'a peut-être pas beaucoup de témoignages, quelle était la lecture pratique de ces fresques ? Parce que dans l'art gothique, par exemple, dans la sculpture est quelque chose de beaucoup plus facile à interpréter. Quand on voit un tympan roman, par exemple, un tympan roman a une, surtout qu'ils étaient coloriés à l'époque, a une espèce de lisibilité immédiate, lisibilité populaire. Alors que si on ne regarde pas, par exemple, quand vous avez montré dans des images précises, quand on voit la corde qui passe entre les mains et ensuite qui se transforme en sceptre, mais le visiteur lambda qui aujourd'hui vient avec le guide vert dans cette pièce-là est loin de voir tout cela, je vous assure. Alors, qu'en était-il de ceux qui montaient dans cette pièce? Ils n'étaient peut-être pas très nombreux d'ailleurs à l'époque, et en tout cas des neufs qui ont été dans cette pièce au moins une fois par semaine.
Je pense que vous posez la bonne question. C'est d'abord pour les neufs. Pendant 2 mois, ils sont enfermés dans le palais. Ils n'en sortiront qu'à l'issue d'une procédure de reddition de compte, d'ailleurs. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On voit que c'est la clé des institutions. Ils sont pendant 2 mois enfermés dans le palais. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont, parce que pour éviter toute pression, donc ils montent, ils descendent leur propre escalier, ils ont leurs appartements et ils sont cernés par des images qui sont très déplaisantes, vous avez raison de le dire. Cette beauté étouffante, elle s'adresse d'abord pour exhorter, pour inquiéter, pour alerter ceux qui gouvernent. Voilà. C'est vraiment le contraire de l'image qu'on pourrait se faire d'un lieu de pouvoir aujourd'hui, au ministère ou au siège de grande entreprise, où tout est fait pour conforter, pour calmer, pour apaiser. Là, au contraire, c'est électrisant, je dirais. Et y compris, d'ailleurs, les images qui s'adressent à eux. Tournez la tête, vous qui régissez. Donc c'est eux, vous qui gouvernez, vers celle qui est peinte ici. Donc ça, c'est pour eux. Donc je pense qu'eux sont amenés dans cette sorte de tête-à-tête entêtant avec leurs propres allégories à réfléchir au sens de leur action. Et donc, c'est cette question-là. Vous avez traité, c'est-à-dire la question de rendre lisibles et mesurables les effets concrets des politiques. Mais en même temps, ceux qui rentrent comme mon anonyme siennois et qui y va peut l'avoir, il est pris dans l'émotion. Enfin, il y a une émotion, l'appel à guerre, qui est une émotion qui fonctionne parce que justement, c'est la peur qui l'a mise en branle. En réalité, c'est de l'ordre de la rhétorique, mais la rhétorique au sens médiéval, c'est-à-dire que c'est un parcours, il faut qu'il y ait un ductus, il faut que ça parte de quelque part. Je pourrais aussi, sur la réception, le premier discours de réception, si j'ose dire, que nous ayons, c'est celui avec lequel je commence le livre, justement, c'est Bernard d'Ancienne, c'est presque 100 ans plus tard, c'est en 1427, dans un contexte particulier, parce que c'est un prédicateur. Mais c'est une manière aussi de vous répondre, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels de l'interprétation de l'image qui sont les prédicateurs. Et on sait très bien que cette prédication, en particulier dominicaine, ou en tout cas, mendiante, ce sont les vrais professionnels de la médiation entre l'image et le texte, ou la parole, et en tout cas, ils sont habilités à faire parler les images. Et d'ailleurs, c'est frappant, puisque le Bernard d'Ancienne, en 1427, parle de cette image à des gens qui ne l'ont pas vue, enfin, qui ne la voient pas, puisqu'il en parle en plein air, il en parle sur le campo, en disant, lorsque j'étais loin d'ici, me revenaient en tête ces images peintes pour vous et qui, assurément, vous délivrent une belle leçon, et il commence à les décrire. Donc, en fait, ce qu'il décrit, c'est une image au sens anthropologique, c'est-à-dire c'est l'impression visuelle qu'on ressent. Donc, ça, en tout cas, un professionnel de la parole et de la persuasion comme Bernard d'Ancienne, 100 ans après, pratiquement, après Lorenzetti, croyait suffisamment efficace, puisque lui, ce qui ne l'intéressait, c'était juste l'efficacité immédiate du discours, d'appuyer son dire sur, sur le souvenir qu'on avait de cette image, ce qui tendrait à prouver que quand même elle avait un impact au-delà d'une lecture érudite qu'on peut faire aujourd'hui.
Une deuxième question matérielle concernant la peinture elle-même, par Lorenzetti et son équipe. Vous dites qu'on n'a pas de documents et qu'on a simplement des paiements, si je puis dire. C'est tout de même modeste. Mais s'il y a une chose qui est juste dans le livre de Skinner, c'est au moins son titre.
Oui.
Parce que, vraiment, cette dimension d'artiste en philosophe politique est éclatante.
Oui.
Et moi, j'ai du mal, personnellement, à comprendre qu'un peintre ait cette espèce de culture énorme, cette culture de philosophie et de théologie qu'il y a derrière ce travail. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, c'est un peintre comme lui, avec son équipe, était en quelque sorte en dialogue avec d'autres? C'est pas simplement passer une commande en disant « faites une allégorie des malheurs qui arrivent si nous sommes mal gouvernés et des bonheurs qui arrivent si nous le sommes bien ». Ça peut être une commande qui est très rapide, mais là, on sent bien que derrière cette fresque, il y a une accumulation considérable de points de vue politiques, de points de vue théologiques. Et on peut imaginer, quand on compare, je ne sais pas, par exemple, à la basilique Saint-François d'Arezzo, quand on voit les fameuses fresques de Piero de la Francesca, on peut imaginer que, avec la culture de l'Antiquité qu'a une personne à l'époque, un peintre peut peindre ça.
Oui.
Mais là, on a du mal à comprendre qu'un peintre comme Lorenzetti, qui a peint d'autres choses, est plus de lui-même, si je puis dire, sans être en dialogue permanent avec des philosophes ou avec des théologiens, peindre cela. En tout cas, si on vous suit dans votre interprétation, qui me semble très, très forte et très juste, ça veut dire que ces éléments d'interprétation, ils ont nourri en quelque sorte la commande, ou accompagné à côté de la commande, ils ont existé. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce point ?
On peut savoir ce que les documents disent, c'est-à-dire effectivement des ordres de paiement sur un an ou sur 14 mois qui indiquent que Lorenzetti est effectivement tous les jours dans ce palais. Donc déjà, il côtoie ceux qui y gouvernent. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de commande. À mon avis, il n'y en avait pas. Je pense que c'est pas que le contrat est perdu. Il peut y avoir là les contrats. Hein.
Ouais.
Mais à mon avis, il n'y en avait pas pour une raison simple. C'est que si vous essayez d'écrire, de commander cette fresque en détaillant toutes les figures, ça fait... Alors là, ça fait plus de 300 pages, si on veut tout détruire, tout décrire. Donc, on était dans un dialogue permanent, probablement, avec les gens qui étaient là, sur place. Deuxièmement...
C'est-à-dire avec le conseil communal,
avec le conseil, lui-même.
D'accord.
Avec le conseil et avec les intellectuels de cette... en particulier avec l'auteur anonyme des 64 vers de cette très savante composition poétique. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'écart entre le nom d'Ambrogio Lorenzetti, qui effectivement cingle sur la fresque en belles lettres, là aussi latines, mais bien formées, Ambrogio Lorenzetti de Sienne a peint ceci, et l'anonymat de l'artiste, du poète, qui a écrit, parce qu'une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas imaginer que Lorenzetti ait écrit. les vers. Ça, c'est vraiment de la poésie savante, très dantesque, etc. Mais il reste anonyme, et c'est très surprenant. Mais vous avez raison, c'est vraiment, c'est vraiment une question importante. On peut la résoudre de deux manières. La première, de dire qu'effectivement, Brogio Lorenzetti était un savant, était d'abord un peintre engagé. Giotto, je vous l'ai dit, hein, il peint pour les seigneurs de Milan, il peint pour les Scrovegni, il peint pour le pape, il peint pour le plus offrant. Les frères Lorenzetti, ils sont deux. Pietro, lui, est illettré. Son frère, ça on le sait, puisque lorsqu'il a une commande, on paye aussi un notaire pour lui lire le contrat, donc voilà, ça veut dire qu'il lui-même ne peut pas le lire. Mais en tout cas, ce sont des peintres engagés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas peindre pour les seigneurs, jamais. Donc, et on sait aussi que lorsque Lorenzetti Ambrogio prend la parole dans les conseils, le notaire dit « et Ambrogio a bien parlé, avec éloquence et conviction ». Donc, il a cette réputation-là. Après, je pense que, et c'est là mon point de désaccord avec Skinner, c'est qu'il connaît les pratiques politiques. Et ces pratiques politiques actualisent des doctrines. Donc on n'a pas besoin, au fond, je crois, d'avoir lu tout ça pour savoir ou comprendre, en tout cas, que la justice communal doit produire de la concorde, etc., etc. Même si ensuite, après, la mise en œuvre visuelle nécessite une médiation intellectuelle qu'il pouvait en partie assumer, mais pas seul.
Sur le fond de l'interprétation, moi, je suis très d'accord avec ce que vous écrivez, c'est-à-dire que il ne faut pas faire une différence radicale entre, d'un côté, la tradition aristotélo-thomiste, et puis de l'autre côté, je dirais, la lecture des classiques. Je pense que, latin, je pense que les deux se mélangeaient beaucoup plus qu'ils ne le disaient, parce que les gens, effectivement, ça n'était pas simplement une culture du livre et du concept, c'était aussi une culture des pratiques. Et c'était des références qui mêlaient tout de même un univers qui était chrétien avec un univers ancien. Et le problème n'est pas simplement l'aristotélotomisme et puis le monde romain, c'est le rapport entre le monde chrétien et le monde ancien. Et je pense que c'est beaucoup plus dans ces termes-là qu'il faut analyser la possibilité que des choses soient en quelque sorte un peu mêlées et considéré comme convergence que dissocié tel que les faits Skinner. Mais j'aimerais maintenant vous poser deux types de questions. Premier type de question, c'est que votre interprétation, qui est très forte et qui me semble très juste, est de montrer comment toute cette fresque a été, je dirais, dessinée à un peintre à un moment où le rapport entre le modèle, entre guillemets, de la seigneurie et le modèle de la commune était un peu en concurrence. Et vous montrez vous-même que les frontières, en tout cas l'historiographie récente de laquelle vous participez, insiste sur le fait que les frontières ne sont pas toujours aussi au couteau qu'on l'a dit, et qu'il n'y a pas d'un côté la bonne ville communale de Sienne et de l'autre côté la mauvaise ville seigneuriale plus au nord. Mais sur ce point-là, il y a une chose qui est très absente dans la fresque et du coup dans votre commentaire, c'est qu'une des grandes réalités de l'Italie de l'époque, c'était le fait de faire appel à des podestats pour gouverner la cité. Or, le podestat, c'est tout de même une espèce, on pourrait dire, de gouvernement appelé, hein, même avec ses juges, ses militaires, etc. Et ça a été un troisième modèle, si je puis dire. Parce qu'il y a le modèle de la commune, bien sûr, il y a le modèle de la seigneurie, mais il y a le modèle de cette espèce de pouvoir importé, de pouvoir étranger, considéré justement comme celui qui pouvait apporter la paix. Et comment dans les débats italiens de l'époque, il y a bien ces trois dimensions, parce que la formule du podestat, c'était une façon de trouver un pouvoir qui, lui, devait beaucoup rendre des comptes, parce que c'était très, très réglementé. La reddition de comptes des podestats était sûrement la plus rigide et la plus stricte qui existe. Aussi, les conditions de son impartialité, de son rapport aux gens de la ville. Et là, au fond, c'est un modèle qui a semblé à un moment celui qui a porté la bonne solution, si je puis dire. Et là, effectivement, dans cette fresque, il n'apparaît pas du tout, c'est simplement seigneurie commune.
Tout à fait, même s'il y a quand même une allusion avec le bonnet de verre juge qui est celui du podestat. Mais parce que ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, du point de vue aussi d'une réflexion contemporaine sur les formes de gouvernement, c'est la rapidité avec laquelle les communes italiennes ont consommé des possibilités institutionnelles. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, il y a une commune aristocratique, puis podestataire, puis populaire, et au fur et à mesure, ces possibilités institutionnelles s'empilent, elles ne se succèdent pas, elles s'empilent, donc vous avez raison, il y a toujours des podestats. Mais à ce moment-là, on leur fait moins confiance. Enfin, je veux dire, c'est moins considéré comme une solution d'avenir. Voilà.
C'est un remède à une crise, quand même.
Ah, de toute façon, oui.
De toute façon, ça vient dans des situations de crise.
Ça vient toujours dans une situation de crise, mais il y a eu un moment où c'était une sorte d'exceptionnel qui durait, puisque le pouvoir a été confié réellement au podestat. Mais ça veut dire qu'on le confiait. Donc, c'était des juges étrangers qui venaient pour 6 mois dans une ville.
Et, il y avait même des familles spécialisées, presque. Si je
puis dire. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 1250, les régimes de peuple n'en veulent plus, parce que c'était pour ces podestats qui étaient des professionnels, non seulement de la conciliation, et donc qui avaient ce savoir rhétorique, mais qui avaient aussi les moyens sociaux de le faire respecter. Donc ils arrivaient avec une armée de juristes et une armée tout court. Et c'était des juges, mais ils étaient tous militaires, enfin milites, au sens de la cavalerie communale. Donc les régimes de peuple, parce que le régime des neufs, c'est vraiment un régime, disons, de base sociale très élargie, à la mezza gente, comme on dit. C'est-à-dire les gens du milieu n'en veulent plus, parce que, en fait, pour assurer ce pouvoir de conciliation, il faut quand même en avoir les bases sociales. Et donc, ça veut dire que, même si sur le papier c'est un système magnifique, en fait, il n'empêche pas le figement oligarchique. Et c'est ça qui est incroyable aussi dans cette histoire, c'est qu'on voit que sur le papier, c'est des constitutions merveilleuses, mais en fait, toujours ça se grippe et toujours il y a un resserrement oligarchique de l'exercice du pouvoir.
Ben, ce qu'on sent très bien à travers ce que vous avez exprimé aussi, c'est que le problème n'est pas simplement celui de l'affrontement des modèles, il est aussi celui de la tendance à ce que des systèmes, peu à peu, inversent un peu leurs effets. Ou qu'une assemblée communale égalitaire devienne oligarchique. Et qu'il y a le sentiment tout à fait que la question n'est pas simplement celle de choisir la bonne formule, mais celle d'avoir conscience des conditions dans lesquelles un régime peut se retourner contre lui-même, voir ses institutions se dégrader, et les personnes qui sont à ses commandes oublier, je dirais, le sens de leur mission. Ça, c'est quelque chose qu'on sent très bien dans votre commentaire et dont on voit qu'il est très sous-jacent à ce qu'il y a dans la fresque. J'aurais une deuxième sur la fresque elle-même et après, je vous poserai une dernière question. Sur la fresque elle-même, j'ai une question concernant la grande figure du juge. Parce que ce juge, il est une figure intermédiaire. Il a à la fois une figure du souverain et il a à la fois une figure du juge. Donc il est une souveraineté de la loi, mais il n'est pas simplement une souveraineté de la loi. Parce que par rapport à tout ce que sera ensuite la tradition européenne, c'est plus la figure du juge que la figure de la loi. C'est ça qui me semble frappant. Et donc il est au-dessus du Conseil, tout de même.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il est très au-dessus, parce qu'il est très en majesté. Il est exactement, vous faites le parallèle avec la fresque de Simone Martini, c'est l'équivalent, si je puis dire, de la Vierge de l'autre côté, ce que vous racontez très justement dans le livre. C'est une allégorie, mais est-ce qu'il représentait quelque chose comme institution, comme figure politique pour ceux qui regardaient la fresque? Parce que les 24 ou les 9, passés au rabot, ils sont quand même tout en bas.
Ils sont quand même tout en bas. Et ils ne représentent qu'eux-mêmes. Alors que le juge ou le vénérable personnage, d'abord, c'est la seule allégorie, c'est une allégorie, on ne peut pas en douter, mais c'est la seule masculine. Ce qui est déjà intéressant du point de vue de la répartition des genres.
Ça veut dire que ça fonctionne dans la réalité.
Bah oui, parce que ce qui est assigné aux femmes...
Enfin, à l'époque, en tout cas.
Oui, c'est-à-dire que c'est un pouvoir effectif, exécutif. Ce qui est assigné aux femmes sous le pinceau de Lorenzetti, c'est d'exprimer des émotions ou des valeurs, mais jamais des actions.
Donc là, il y a quand même un problème...
Donc là, c'est évidemment pas... C'est pas une abstraction. C'est pas le bien commun, la loi. C'est effectivement quelqu'un qui agit et c'est le plus haut personnage. Voilà. C'est celui qui est le plus de stature, la plus imposante. Et ensuite, il y a la justice et ensuite, il y a la paix.
C'est-à-dire que si on regarde des allégories, disons, anglaises ou françaises de l'époque, ce sont des allégories de majesté royale.
Oui.
Exactement.
C'est pour cela
donc
que...
là, il y a quand même un petit problème d'interprétation.
Et oui.
C'est-à-dire que la fresque qui est supposée encenser le modèle communal par rapport au modèle seigneurial, en fait, met en majesté quelqu'un qui s'appelle ailleurs un roi.
Et qui en a tous les attributs symboliques.
Exactement.
Et toute la connotation.
Exactement. En plus, il a la barbe, c'est le Charlemagne du coin, quoi.
Voilà. Non. Il est vénérable, il est tout ce qu'il faut. Voilà. Et c'est pourquoi j'aime bien cette... cet équivoque de Kondorovitch.
Mais alors comment vous l'expliquez?
Parce que
pourquoi il est là ce roi?
Mais parce qu'il n'y a pas d'autre moyen intellectuellement disponible pour définir la souveraineté d'une commune qui se gouverne elle-même que pour en disant c'est comme un roi.
D'accord. Alors ça m'amène à
ou un empereur.
Ça m'amène à poser la question finale. C'est le parallèle entre cette littérature, disons, ces images parlantes, ces images éloquentes, et les textes qui peuvent y être associés, que vous avez cités, et puis toute la tradition dans l'Europe des monarchies, de la même époque, des miroirs du prince. Et même s'il y a un auteur comme Jean de Viterbe, auquel vous avez fait référence, qui à la fois fait un livre sur le régime de la cité et un livre sur le régime des principaux, en même temps, de l'autre côté, en Angleterre, il y a Jean de Salisbury, il y a Gilles de Rome qui écrit pour Philippe le Bel, et ces miroirs du prince, au fond, ils ont la même ambition que Lorenzetti, mais avec la différence que le souverain est le bon pasteur.
Oui.
Bon, le souverain est le bon pasteur. Il serait tout à fait représenté comme la même chose dans la presse, c'est le bon pasteur, et dont le pouvoir ne vaut que si il est validé par les qualités morales et les qualités, les vertus théologales, bien sûr, qui sont, mais non seulement les vertus théologales, parce que dans les miroirs du prince, il y a beaucoup d'indications sur le mode de vie, sur la chasteté, sur... On entre assez dans le détail de ce que doivent être les qualités morales des souverains pour pouvoir être gouvernants. Hors de ces qualités, leur fonction même serait illégitime. Alors comment vous pensez... D'abord, est-ce qu'il y a eu des échanges entre ces deux traditions, disons la tradition italienne où des fresques de ce type-là ont été construites dans un univers qui n'était pas celui, évidemment, d'une référence monarchique ni monarchique, enfin impériale, elle existait très lointaine, disons, par rapport à toute cette littérature des miroirs des princes. D'ailleurs, il est frappant qu'en Italie, ils ne sont pas, enfin, par Jean de Viterbe, il ne semble pas qu'il y ait eu énormément d'écrits. S'il y a eu des miroirs des podestas, quelques-uns.
Oui, oui.
Mais ils semblent avoir été moins importants que les miroirs des princes en Angleterre, disons, en France. Ben, après, ça circulait dans toute l'Europe. Mais les grands miroirs des princes a tout de même été une littérature d'une importance intellectuelle, pratique, considérable à l'époque, quoi.
Absolument. Et c'est justement cette tradition-là, c'est des miroirs que brisent tous les sens du terme Machiavel, pour cesser de murmurer à l'oreille des puissants. Mais vous avez raison d'insister sur Jean de Viterbe, sur Brunetto Latini et sur Gilles de Rome. C'est un des défauts de Quentin Skinner, c'est qu'il met en série, il pense l'épistémé, il met en série différents textes, mais effectivement le médiéviste, que je reste malgré tout face au texte, dit... ce que Staline disait face au Vatican, c'est combien de divisions, en l'occurrence combien de témoins manuscrits. L'Oculus Pastoralis, il y en a un témoin manuscrit, donc, et pas à Sienne, donc on peut toujours mettre en rapport, mais de toute façon on est sûr qu'ils ne l'ont pas lu. Alors que les Gilles de Rome, on est sûr que tout le monde l'a lu, il y en a 600 témoins manuscrits, c'est énorme, et dans toute l'Europe. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est-à-dire à la disponibilité. Ça rejoint votre première question, là. Qu'est-ce qui était réellement disponible et pour qui pouvait le lire? Alors, de fait, ce genre du mémoire au prince, il déborde de beaucoup, il s'actualise, il déborde de beaucoup sa production, effectivement, italienne. Et c'est cette question de la visibilité. Je pense que, comme vous le dites, justement, Lorenzetti ou ceux qui s'autorisaient de ce nom propre avaient à disposition plusieurs ressources discursives qu'ils pouvaient mobiliser en fonction de l'énergie nécessaire au moment. Et à ce moment-là, Skinner a raison de dire que la République cicéronienne est peut-être plus efficace pour dire l'urgence du temps. Mais les autres étaient aussi possibles, précisément parce que cette manière, au fond, de rendre visible ce que les mots sont en train de brouiller. C'est ça, en fait, la puissance de l'image et l'extraordinaire confiance que les Italiens vont mettre dans cette efficacité iconographique. C'est justement parce qu'ils pensent à un moment qu'on peut rendre visible ce que les mots obscurcissent. Et on le voit bien avec le terme de bien commun. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand tout le monde dit bien commun, les seigneurs, les tyrans, etc., la main sur le cœur, il faut bien trouver les moyens de se réemparer de ces mots.
Mais ça, c'est un des grands problèmes de la Révolution française. Oui. Seulement, les Italiens ont réussi à faire des fresques, la Révolution française n'a pas fait ses fresques. Et peut-être que ça, c'était un petit problème. Écoutez, merci, c'était vraiment passionnant. Puis je rappelle votre... Je rappelle le titre de votre livre, qui est « Conjurer la peur », avec une particularité, c'est que le livre donne la préférence pour des grossissements de morceaux de la fresque, où on voit qu'ils sont, c'est de la peinture sublime et vraiment magnifique. Elle n'est pas simplement une allégorie, c'est aussi une très belle peinture.